There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmalade?
Cette année, notre partenaire français du monde, Toronto, vous invite à commémorer le 107e anniversaire de la bataille de Vimy, le dimanche 14 avril à 10h55, au cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto. Le comité Vimy Toronto 2024, avec ses institutions et associations, a à cœur de continuer cette commémoration afin que vive le devoir de mémoire, l'éducation, la conscience morale et notre engagement citoyen dans la lutte pour la paix dans l'avenir. La victoire de Vimy fut un événement fondateur pour le Canada. Nombre de contemporains et d'universitaires ultérieurs y ont vu un événement important dans l'évolution du Canada vers l'indépendance complète par rapport à la Grande-Bretagne. 107e anniversaire de la bataille de Vimy, le dimanche 14 avril à 10h55, au cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto. Retrouvez tous les détails sur popourishow.com. Les citoyens français, aux côtés de leurs amis canadiens, tiennent à exprimer leur reconnaissance et leur respect aux combattants canadiens qui ont combattu sur les terres de France et d'Europe pour défendre notre liberté. Nous comptons sur votre participation pour cette commémoration 2024.
Bienvenue à Vue d'Afrique. Le 40e Festival international de cinéma Vue d'Afrique se déroule à Montréal, ici même, du 11 au 21 avril. Alors n'hésitez pas à être présent, à partager l'information. C'est une belle nouvelle, 40 ans, ça se célèbre. Le 40e Festival de cinéma Vue d'Afrique est présenté par Québecor, propulsé par les cinémas Guzzo. Tout le festival va se dérouler dans un seul lieu magique, qui est le cinéma Guzzo du marché central. Alors vous connaissez, c'est à Ville-Saint-Laurent. Et on va se retrouver dans 2 à 3 salles de cinéma pendant 11 jours. Du 11 au 21 avril, ne manquez pas le meilleur du cinéma africain créole, ici même, à Montréal.
Bonne arrivée, voisin.
Québécois présente le 40e Festival international de cinéma Vue d'Afrique, propulsé par les cinémas Guzzo. Pour les 40 ans du festival, rejoignez-nous du 11 au 21 avril pour une célébration mémorable dans les salles du cinéma Guzzo du marché central. Information au 263 688 25 81.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vit, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Et je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Ce flash spécial pour vous faire part du décès de Maryse Condé, l'écrivaine guadeloupéenne. Maryse Condé, grande figure de la littérature francophone et guadeloupéenne, est décédée à l'âge de 90 ans dans la nuit de lundi à mardi. Maryse Condé, née Maryse Boucoulon le 11 février 1934 à Pointe-à-Pitre, est une journaliste, professeure de littérature, écrivaine d'expression française, guadeloupéenne indépendantiste, comme elle l'a toujours revendiqué. Elle est l'auteur de très nombreux ouvrages, entre autres Ségou, roman historique en 2 tomes. Elle est également connue pour son roman « Moi, Tituba sorcière », un récit d'esclavage dont la version anglaise est accompagnée d'une préface d'Angela Davis, sans oublier « Traversée de la mangrove » ou encore « La vie sans phare », roman autobiographique. Décès donc de Maryse Condé, grande figure de la littérature guadeloupéenne à l'âge de 90 ans.
O News Radio sur outremernews.fr.
Dimanche 7 avril 2024. CUTFM et Popourishow présente Hommage à Maryse Condé, grande voix de la littérature francophone, prolifique écrivaine guadeloupéenne et française. Une émission réalisée avec la collaboration de France 24, France Inter, RFI, TV5 Monde et Outre-mer News. Grande dame des lettres mondiales, l'écrivaine française née en Guadeloupe, Maryse Condé est morte dans la nuit du 1er avril à l'âge de 90 ans, après une vie de combat pour sa liberté, et d'exploration des identités antillaises et noires. Révélé au grand public en 1984 avec Ségou, la romancière antillaise a vu son œuvre de renommée mondiale distinguée en 2018 par le prix de littérature de la Nouvelle Académie. Émission spéciale, hommage à Maryse Condé. Elle laisse une œuvre magistrale qui décrit dans un langage précis les ravages du colonialisme et le chaos du post-colonialisme. Montage, mixage, DJ Devera. Production et animation, Eric Kader. La grande dame des lettres mondiales, Maryse Condé, tire sa révérence, nous léguant une œuvre portée par la quête d'un humanisme fondé sur les ramifications de nos identités et les fêlures de l'histoire, a écrit sur X l'écrivain franco-congolais Alain Mabankou. Né à Pointe-à-Pitre le 11 février 1934, Maryse Condé a traité dans une trentaine de livres, principalement des fictions, l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, l'héritage de l'esclavage et les identités noires. Pour avoir vécu dans plusieurs pays d'Afrique, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Sénégal, Maryse Condé critiquait les limites du concept de la négritude proposé par le Martiniquais Aimé Césaire et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor. Je remets en question le fait que la négritude perpétue la notion que tous les Noirs sont pareils. C'est une attitude totalement raciste, héritée en fait des Blancs, qui croient que tous les Nègres se ressemblent, disait-elle dans un entretien avec la revue Kalalou en 1989. Ayant toujours eu le désir d'écrire, elle n'a pu s'y consacrer véritablement qu'à l'approche de la quarantaine. Avant cela, cette fille de la classe moyenne de Guadeloupe, qui se décrivait comme une enfant gâtée par ses parents, a traversé de nombreuses épreuves à partir de son arrivée à Paris pour ses études en 1953. La perte de sa mère en 1956, à qui elle n'a pu dire au revoir, le racisme, l'échec de son mariage avec le Guinéen Mamadou Condé, les conditions rudimentaires dans lesquelles elle a élevé ses quatre enfants l'ont marquée. Grâce à son nouveau compagnon rencontré au Sénégal, Richard Phillox, qui deviendra son mari et traducteur, elle réalise sa vocation, l'écriture, en quittant l'Afrique en 1970. Elle se lance aussi dans un doctorat de lettres à Paris. Sa thèse, soutenue en 1976, s'intitule « Stéréotypes du noir dans la littérature antillaise Guadeloupe-Martinique ». De 1995 à 2005, elle dirige le Centre d'études francophones de l'Université de Columbia à New York. Elle devient alors une figure intellectuelle aux États-Unis, pays qu'elle quitte définitivement en 2013 pour passer sa retraite en France. Maryse Condé est déjà passée sur les campus de l'Université de Toronto. Et oui, on garde de très bons souvenirs. Et dès l'annonce de son décès, plusieurs médias du monde lui ont rendu un vibrant hommage. Popourri Show revient sur la vie de l'écrivaine guadeloupéenne la plus célèbre de sa génération. Une vie marquée par les allers-retours, les rencontres et l'engagement. Maryse Condé nous a offert une œuvre riche et multiple, traversant les genres littéraires et les continents. Avec Françoise Vergès, historienne et politicologue, et Anne-Sophie Rouvelou, libraire, chroniqueuse dans la revue Page des librairies, nous revenons sur le parcours singulier d'une auteure insaisissable. Une collaboration de France Inter.
Aujourd'hui, nous recevons la politologue Françoise Vergès, auteure de différents ouvrages, parmi lesquels « Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme », publié il y a quelques mois chez Albin Michel. Albin Michel, où elle avait publié également l'essai « La mémoire enchaînée, question sur l'esclavage » en 2006. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, elle est surtout l'auteure du documentaire « Maryse Condé, une histoire singulière » réalisé pour France 5 par Jérôme Sesquin. C'était sur la vie et l'œuvre de la romancière, une vie que nous allons tenter de vous raconter aujourd'hui. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Si on peut dire que ma vocation est née, c'est un jour où j'ai fait un petit recueil de textes que j'ai offert à ma mère pour son anniversaire, Et finalement, elle n'a pas du tout aimé l'image d'elle que je donnais dans ce poème. Elle a pleuré. Donc pour une enfant de, je sais pas, 8 ans, 9 ans, voir sa mère pleurer, c'est à la fois très douloureux peut-être, mais très grisant.
Vous avez pris conscience du pouvoir des mots.
Oui, on se dit, les mots, c'est fort, c'est beau. Donc je pense que j'ai voulu un métier qui me donnerait ce sentiment d'arriver, de pouvoir tout faire. Mais finalement, c'est le plus dur peut-être du métier.
Marie Scondé au micro de Paula Jacques en 2008. Bonjour Françoise Vergès.
Bonjour.
Alors on savait déjà que Marie Scondé était une femme qui ne s'en laissait pas compter. Et là, on apprend qu'elle était aussi, si l'on peut dire, une enfant très forte.
Oui, je pense qu'il faut, ce qu'elle a raconté dans « Conte à rire, à pleurer, la vie sans phare », elle grandit en Guadeloupe, qui est en, et ses parents grandissent dans une Guadeloupe qui est encore une colonie. Ils sont noirs, ils aspirent à faire partie du monde de la petite bourgeoisie, du monde bien, ils veulent s'arracher à la vie des noirs prolétaires. Et elle grandit, mais à la fois très rebelle, on sent en elle une rébellion très, très tôt, une aspiration à quelque chose d'autre qui se lit ou dans l'anecdote que vous racontez ou dans ce sur quoi elle reviendra dans ses livres. Oui, et c'est assez exceptionnel parce que c'est une Maryse qu'on grandit dans une Guadeloupe encore très, très, je veux dire, c'est les années 50, je veux dire, elle est encore très coloniale. Et elle a quand même ce sentiment, enfin, il y a quelque chose en elle qui aspire à autre chose, alors qu'elle n'est pas entourée de personnes qui parlent de ces autres choses.
Elle dit qu'elle a trouvé que son enfance en Guadeloupe n'avait pas été intéressante. Est-ce que vous pensez qu'elle exagère un petit peu quand elle dit ça? Parce que c'est vrai qu'elle peut avoir une tendance, un plaisir à exagérer, Maryse Condé.
Oui, Maryse aime bien nous provoquer, mais je pense aussi, pensons à ce que Aimé Césaire disait quand il quitte la Martinique, il disait qu'il n'en pouvait plus, qu'il était tellement content de partir et de quitter la petite bourgeoisie martiniquaise dans laquelle il étouffait, de Frantz Fanon qui parle aussi de ça. Ce sont des sociétés, je pense que quand on est enfant, ça peut être très beau. Mais quand on devient adolescente et qu'on aspire à autre chose, ça peut être des sociétés qu'on trouve très conformistes, très étouffantes. Et Maryse a dû éprouver ce sentiment que, par exemple, moi je l'ai éprouvé à l'île de la Réunion. Je veux dire, il y a un moment donné où la manière, c'est pas que ces îles elles-mêmes ou leur culture soit été étroite, c'est le monde post-colonial qui est créé, qui vous donne envie de partir.
Mmh. Alors il y a une rébellion dès cet âge-là chez Maryse Condé qui est évidente, qui l'empêche d'ailleurs à l'école d'avoir par exemple des prix d'excellence, même si elle est première de la classe.
Oui, il y a en Maryse, si elle n'était pas devenue écrivain, elle serait sans doute, je ne sais pas, en tout cas, il y aurait quelque chose où cette rébellion se serait exprimée. C'est quelqu'un de rétif et on le sait, elle n'aime pas du tout le conformisme. Elle vous prend toujours de côté. Elle a horreur de s'aligner sur la majorité, sur la pensée majoritaire. Donc il y a quelque chose, oui, en elle qui se rebiffe tout de suite et qui a envie d'aller voir un petit peu ailleurs, de ne pas se soumettre naturellement à ce qui se dit ou ce qui se fait.
Alors je crois qu'elle trouvait ses professeurs assez ennuyeux, sauf le professeur de gymnastique, ou la professeure peut-être d'ailleurs de gymnastique, avec qui ça se passait bien jusqu'au jour où Maryse Condé l'a reprise sur une faute de français. Et là je crois que ça a commencé à moins bien se passer.
Oui, Maryse a aussi cette manière tout à fait tranquille de dire, de pointer les erreurs des unes et des autres.
Il y a un plaisir à ça, vous croyez ?
Je pense et surtout qu'elle n'aime pas le faux semblant, qu'elle n'aime pas la prétention et qu'elle a envie un peu, puisqu'elle-même c'est ce qu'elle dit dans La vie sans phare, c'est-à-dire que elle va essayer de dire les choses, mais elle sait bien que sans doute ça va aussi en masquer d'autres. Je pense qu'elle est consciente de ça et que elle aimerait plus de sincérité.
Mmh. Elle est consciente que les mots, même ce qu'elle prononce elle-même, ne peuvent pas dire la totalité de sa pensée.
Oui, elle en est tout à fait consciente. Elle est consciente que, évidemment, quand on écrit ou quand on parle, on dit des choses et qu'à la fois on en masque, qu'il faut toujours aller plus loin. Et son travail, tout son travail littéraire, c'est de ça. C'est de s'attaquer aussi à des histoires qui lui font explorer autrement des mythes, des légendes, des notions. et de se dire oui, mais enfin, par exemple, ah oui, on dit ça, mais alors si je le regardais d'une autre manière, qu'est-ce que je verrais? Donc de revoir les hauts durs le vent d'une autre manière, ou enfin des épisodes ou des faits divers qu'elle lit dans les journaux, et si je les voyais autrement que la manière dont on les raconte dans les journaux, si je faisais apparaître d'autres vérités, ça changerait aussi la manière d'aborder ces questions.
Donc elle est née le 11 février 1937 à Pointe-à-Pitre, c'est la dernière d'une famille de 8 enfants, ce qui en fait, d'ailleurs elle ne s'en est pas cachée, une enfant plutôt gâtée. Sa mère était institutrice, et c'est une des premières femmes noires de sa génération qui était institutrice.
Oui, c'est ce que je disais, Marie s'en parle pas beaucoup, mais ça, certainement ça a dû beaucoup compter, ça comptait beaucoup à l'époque, de sortir justement de la paysannerie. Qui était le sort des Noirs dans ces pays, dans ces colonies. Et être institutrice ou être instituteur, c'était vraiment, l'école était quand même était considérée comme l'accomplissement le plus grand. D'abord, ça voulait dire la maîtrise de la langue française qu'on avait réussi. Et aussi l'investissement dans l'enseignement qu'ont eu les esclaves et les descendants d'esclaves, puisque c'était l'école qui allait vous sortir d'une situation où on vous condamnait à l'illettrisme, à l'analphabétisme.
Donc c'est un milieu de petite bourgeoisie, parce que son père a créé une banque, qui a d'ailleurs périclité après sa mort. Elle se trouve donc, Marie Scondé, sans cesse en porte-à-faux, entre un milieu social qui est celui de la petite bourgeoisie, et une couleur de peau qui est la couleur noire. Et ça, ce sera, j'imagine, déterminant, cette espèce de constante entre deux.
Elle observe aussi ce qu'elle raconte dans le documentaire qu'on avait fait. Elle observe que dans sa famille, on n'aime pas les noirs parce qu'ils sont trop noirs. On n'aime pas les mulâtres parce qu'ils sont arrogants. On n'aime pas les blancs parce que ceci, finalement, on n'aime personne, si vous voulez. Mais ça, c'est sa famille. Mais à travers ça, ça reflète aussi la forme de colorisme qui existait aux Antilles et qui fait que vous essayez toujours de trouver quelqu'un au-dessous de vous, si vous voulez. Donc il y a toute une hiérarchie qui n'est pas simplement une hiérarchie de classe sociale, qui est aussi une hiérarchie de couleur de peau. On va se rapprocher le plus possible du blanc, qui est quand même, bon, évidemment, le préférable. Et on se construit qu'on est quand même mieux que les autres. Elle dit à quel point ses parents ne voulaient pas fréquenter à la fois ces gens comme ci, ces gens comme ça, parce que personne n'était à la hauteur.
Leur reproche, ça, vous croyez ?
Elle voit, je ne sais pas si elle le reproche, mais elle voit que c'est étouffant, que c'est du coup, ça construit un monde très étroit. Elle n'a aucune idée, elle n'a aucun contact, dit-elle, avec le peuple guadeloupéen, avec les personnes qu'elle voit quand même, quand elle va à l'école ou quand elle en revient. Il n'y a pas de contact direct avec le peuple guadeloupéen.
En tout cas, l'avantage de ses parents, qui étaient fiers finalement de ce qu'ils étaient, comme elle le raconte, c'est que ses parents lui ont transmis une certaine fierté. Il n'y a pas de complexe d'infériorité, elle le dit, chez Marie Scondé, qui a toujours pensé, je la cite, qu'elle était une des femmes les plus intelligentes du monde. Est-ce que c'est ironique quand elle dit ça, vous croyez ?
Je pense que ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'elle a une très grande transsensibilité à des tas de choses, et puis qu'elle est capable de revenir sur des choses qu'elle a pensées. Quand elle parle de ses voyages en Afrique, de vouloir redécouvrir l'Afrique, enfin, est-ce qu'elle est africaine, elle est capable ensuite de parler des illusions qu'elle avait, des erreurs qu'elle a pu faire. Sincèrement à l'époque peut-être, mais qu'elle voit rétrospectivement comme étant de la naïveté ou des illusions. Je pense que c'est de ça qu'elle parle quand elle dit intelligente, c'est cette capacité qui n'est pas donnée, que tout le monde ne veut pas avoir. C'est pas simplement qu'il n'est pas donné, mais parce que de l'avoir, ça vous oblige à revenir sur vos erreurs et à vous revenir sur vos illusions et sur vos naïvetés. Et tout le monde n'a pas envie de ça, de cette rigueur.
De cette lumière. Un peu trop aveuglante. Alors l'enfance de Marie Scondé, c'est donc une enfance en Guadeloupe, sur cette île qui reste pour elle un lieu insaisissable. Elle le disait en 2005 à Catherine Pont-Humbert.
La Guadeloupe, pour moi, c'est une chose que je ne cesse pas de découvrir et puis d'essayer de comprendre. Elle change tout le temps. En fait, le pays n'est pas du tout statique comme on croit. Il n'y a pas une Guadeloupe. Il y a une série d'images qui se modifient au fur et à mesure. Et comme je n'y suis pas tout le temps, je vis un peu en dehors du pays et je reviens de temps en temps. Chaque fois que je reviens, il y a quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui a changé. Quand je cherche, par exemple, la Guadeloupe de quand j'étais petite, elle n'est pas là. Quand je cherche la Guadeloupe à laquelle je rêve, quand je suis en dehors du pays, elle n'est pas là non plus. Et pourtant, il y a une sorte de permanence. Vous voyez, c'est très difficile à expliquer. C'est permanent et c'est contradictoire. C'est mouvant et c'est toujours pareil. C'est plutôt au niveau du vécu, une sorte de recherche dans un paysage que je ne domine pas toujours et que j'arrive plus ou moins à reproduire dans les textes littéraires.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Comment vous comprenez ce que vient de dire Maryse Condé de son rapport à la Guadeloupe, Françoise Vergès?
Je peux pas parler pour elle, mais je peux comprendre si je pense pour moi, si vous voulez, de ces lieux qui sont des lieux d'enfance extrêmement familiers, qui ont contribué à faire qui nous sommes, je veux dire, devenir d'îles, qui ont été des îles, colonies, puis qui ont à la fois des paysages totalement différents, qui sont des paysages très très profond, qui marque, je pense. Mm-hmm. Il y a aussi la manière dont les saisons se déclinent, c'est-à-dire pas du tout comme en Europe ou ailleurs, et puis la présence des cyclones qui montrent une présence de la nature très forte. Et l'histoire qui marque, et en même temps, ce sont quand même des pays eux-mêmes très divisés. Et il y a aussi une division à l'intérieur des personnes que Frantz Fanon a très bien décrit. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire ça reste insaisissable parce que à la fois ça change, parce que les choses changent, heureusement. Et aussi parce que finalement, enfin moi je reprendrai un petit peu ce dont un ami parle, Carpana Marimutu, c'est-à-dire que ce sont des pays aussi difficiles à habiter complètement, parce qu'ils sont restés tellement marqués par leur histoire, qu'ils ne sont pas pleinement devenus des pays en soi, des pays à soi. Et on reste toujours un petit peu entre deux.
Alors justement, Maryse Condé a quitté ce pays quand elle avait 16 ans pour Paris. Elle était venue déjà avec ses parents qui aimaient beaucoup Paris, qui lui parlaient beaucoup de Paris. Et donc, à ses 16 ans, elle vient pour être scolarisée ici en France, et enfin en France métropolitaine. Et elle dit qu'elle n'a jamais été vraiment dépaysée à Paris. Il y a eu tout de suite une évidence quand elle est arrivée dans cette ville.
Maryse dit souvent que c'est que tout de suite ça a été familier, parce qu'en fait elle trouvait ce qu'elle cherchait aussi, des personnes ouvertes, une ouverture à la philosophie, à la littérature, de rencontrer aussi la littérature africaine, les autres littératures là, de pouvoir entendre ces personnes. Et il y a un sentiment qui est décrit aussi, qui a été décrit par Césaire, par exemple. Césaire, il arrive à Paris, il est chez lui. Il est chez lui. Parce que il y a aussi le fait que quand vous venez de ces pays, vous possédez plusieurs cultures, dont la culture française. Vous avez appris à l'école la littérature française, vous avez appris l'histoire française, la géographie, donc de la France hexagonale, donc vous les connaissez. Et vous arrivez à la fois avec ce que vous avez appris, mais aussi ça. Donc ça, en fait, vous arrivez avec une richesse, quelque chose de double par rapport aux Français de l'Hexagone qui parfois ne possèdent pas de double culture. On possède une. Là, vous en possédez deux. Donc, il y a quelque chose qui vous est déjà familier. Même si la ville, vous ne savez pas encore circuler dans la ville, quelque chose de ce qui vous est présenté, de cette société, vous est totalement familière.
Et pourtant, c'est à Paris qu'elle va se rendre compte de ce qu'implique sa couleur de peau. Écoutez.
Quand j'étais petite, adolescente, je voyais bien que j'étais noire. Dans la glace, je me regardais, je voyais une enfant noire. Mais ça n'avait aucune signification. Pas de valeur culturelle, pas d'engagement politique. C'était une couleur qui était insignifiant, qui n'avait aucun signifié. Pour que tout change, il a fallu venir à Paris et seul, pas avec mes parents qui me protégeaient, mais seul dans une classe d'Hippocagne à Paris, avec des profs très hostile, très moqueur, avec des étudiants pas hostiles mais paternalistes, protecteurs, qui m'ont fait réaliser qu'en fait j'étais absolument différente. Et j'ai eu envie de comprendre quelles étaient ces différences, de cerner ces différences. Autrement, je pense que je n'y serais jamais arrivée. Je serais restée en Guadeloupe, que je n'aurais jamais compris que j'ai une origine, une histoire, une identité différente. Et ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est quand j'entends dire que la couleur, la race ne signifie rien, alors que pour des gens de ma génération, c'était absolument capital.
Donc il a fallu ce déplacement géographique, Françoise Vergès, pour que se fasse la prise de conscience. Est-ce que ça signifie que en Guadeloupe, pour Maryse Condé, la couleur de peau n'était pas finalement un sujet?
Oui, ça pouvait ne pas être un sujet. D'une part, elle n'était pas non plus dans un milieu qui allait lui faire ressentir ça. Je veux dire, elle n'appartenait pas à une famille de paysans pauvres. Ou peut-être là, il y aurait eu aussi des formes d'insultes raciales, même à la Guadeloupe. Et cette description que aussi, par exemple, Césaire, qui s'entend traiter de nègre dans la rue et qui répond « le nègre vous emmerde » ou Fanon qui raconte fameusement qu'une petite fille se met à hurler « maman, maman, un nègre, j'ai peur ».
Elle le raconte ça aussi, Maryse Condé, oui, qu'elle va chez des amis et que les petits-enfants sont extrêmement effrayés et qu'ils veulent rassurer pendant 20 minutes.
Voilà, donc il y a cette rencontre qui, tout d'un coup, vous met dans la position, dans une position à laquelle vous n'aviez pas pensé. C'est-à-dire que vous, comme elle dit, elle se voyait noire, mais enfin, ça n'avait pas plus de signification que cela. Tout d'un coup, cette couleur devient une question sociale, culturelle, dans le monde dans lequel elle vit. Et donc, elle est confrontée au fait que la couleur n'est pas simplement une couleur de peau, comme il y en a 25 000 couleurs de peau, mais quelque chose qui la marque historiquement et socialement.
Et donc, la conséquence de ça pour elle, ça va être d'abord un engagement politique à gauche. Elle a une camarade de classe dont le père est un intellectuel marxiste et qui va lui ouvrir finalement des horizons philosophiques, politiques différents.
Oui, quand vous êtes confronté tout d'un coup à une réalité qui était là mais dont vous n'aviez pas conscience parce que justement les autres vous la renvoient, vous essayez de comprendre pourquoi, d'où ça vient. Une des analyses qui était offerte, c'était l'analyse marxiste qui commence à s'organiser, pourquoi il y a des pays exploités, pourquoi il y a eu des colonies, pourquoi il y a eu le colonialisme, l'impérialisme. D'autres théories qui s'offrent déjà à l'époque, c'est celle de Fanon dans Peau noire, masque blanc. Enfin, il y a tout, vous cherchez évidemment à comprendre parce que vous comprenez bien que c'est pas qu'une question personnelle, c'est pas que vous, c'est pas que moi, Maryse Condé, ou moi, Françoise Vergès, ou moi, Aimé Césaire. Il y a quelque chose qui vous dépasse. Donc vous avez besoin de comprendre comment votre expérience personnelle se rattache à une expérience plus générale, historique. Et c'est là qu'elle va donc aller à la recherche de ces différentes explications et pour mieux comprendre qu'est-ce qui fait d'elle une femme noire et non pas simplement Maryse Condé.
Et alors quand elle pense femme noire, forcément elle pense à l'Afrique et donc elle va se rapprocher du milieu des étudiants qui viennent des différents pays d'Afrique et qui vivent à Paris. Elle va même se marier avec quelqu'un qui vient, je crois, de Guinée, c'est ça?
Oui.
Mamadou Condé. Alors elle fait sa connaissance parce qu'il jouait dans une pièce de Genet, Les Nègres.
Oui, il joue dans les pièces de Genet. Alors, qui aussi signifie qu'à l'époque, à Paris, il y a quand même des possibilités. On n'est pas non plus, et il y a pour cette jeune fille noire, elle n'est pas dans un désert. Il y a des étudiants noirs ou des artistes, comme vous faisiez remarquer. Il y a déjà la librairie Présence Africaine, il y a des journaux, donc il y a quand même pour une jeune fille des lieux où se rendre, où aller pour trouver. Et elle va épouser Mamadou Condé et ensuite aller en Afrique, réellement aller sur le continent africain, qui a été à cette époque et qui l'est encore toujours, un moment pour beaucoup de Noirs dans le monde, un moment d'aller comprendre d'où on vient quand même. C'est-à-dire que, puisque si vous soyez Noir dans les Amériques, dans les Caraïbes ou ailleurs, vous êtes rattaché à cette histoire de la traite et de l'esclavage. Aujourd'hui, évidemment, il y a des Africains qui arrivent dans les Amériques qui ne sont pas reliés à cette histoire. Mais enfin, quand même, que ce soit le Brésil, le Mexique, enfin, quand on pense la masse du monde, des Amériques et des Caraïbes, vous êtes reliés à cette histoire. Donc, il y a quelque chose quand même d'aller voir mais c'est quoi ce continent dont, à l'époque, on se souvient, enfin, déjà, c'est encore aujourd'hui, on ne connaissait pratiquement rien. Pratiquement rien. Ce qu'on apprenait à l'école, c'était rien. Rien. Donc, elle a rien appris à l'école. À l'université, on n'apprenait pas non plus les grands auteurs africains. On apprenait la littérature française classique.
Donc, elle y va assez joyeusement, finalement, à la recherche de ses origines. Et là, elle va parcourir tout un tas de pays. Alors, il faut préciser quand même que d'abord, elle y va par l'intermédiaire du ministère de la Coopération. Elle va en Côte d'Ivoire et elle va enseigner dans les petites classes en quatrième et en cinquième. Donc, c'est un peu comme représentante officielle, d'une certaine manière, de la France qu'elle va aller en Côte d'Ivoire.
Historiquement, enfin, bien avant même, donc, Maryse, le voyage de Maryse, les Antilles ont fourni à la colonisation française nombre de fonctionnaires dans les différents services coloniaux, puis ensuite dans la coopération vers l'Afrique, parce qu'on pensait qu'à la fois, bon, ils parlaient français, ils étaient français, ils étaient citoyens français, et ils étaient noirs. Donc, il y avait quelque chose qui pourrait apparemment naturellement se faire. Et Maryse, oui, elle va apprendre le français, parce qu'elle ne, Maryse ne parlait aucune des langues africaines. Donc c'était le français qu'elle va enseigner. Et mais ça montre bien aussi ces différentes, la question diasporique noire, c'est-à-dire elle parle français, un autre aurait parlé portugais, un autre aurait parlé espagnol, et ça, cette vaste présence africaine dans le monde qui fait qu'on revient avec aussi d'autres cultures et d'autres langues en soi, d'autres histoires.
Alors elle ira aussi en Guinée, puisque c'est le pays de son mari, et là c'est une période évidemment assez exaltante, parce que c'est justement le moment des indépendances. Elle-même, elle a fréquenté à Paris cette jeunesse qui cherche l'indépendance, notamment à la Fédération des étudiants d'Afrique noire, où elle a côtoyé Sékou Touré, qui va devenir le président de la Guinée. Est-ce qu'elle vous a parlé un petit peu du sentiment qui devait être peut-être un sentiment d'exaltation à l'époque pour elle?
Oui, c'est un sentiment d'exaltation. Elle fait partie, elle sent bien qu'elle fait partie d'une histoire qui est en train de se faire, qui est en train de s'écrire. Elle n'a pas la relation d'une militante politique à tout cela, mais elle a la relation, une relation en tout cas de désir et de connaître, de connaissance, d'être plus proche de tout ça, qui l'emporte quand même. Elle est encore une toute jeune femme. Elle rencontre des personnes et l'Afrique se lève. Enfin, donc un sentiment de participer à quelque chose vraiment, d'exaltant, je pense. Ça devait être tout à fait exaltant pour toute cette génération.
Une exaltation qui va aussi retomber assez rapidement. Après, rapidement, les indépendances, elle va se rendre compte de ce que ça signifie aussi que l'indépendance pour un certain nombre de ces pays, peut-être en particulier d'ailleurs.
Oui, il y a plusieurs choses dont elle parle à plusieurs reprises ou dans des interviews ou dans ses autobiographies. C'est-à-dire que d'une part, elle n'est pas nécessairement acceptée par les sociétés africaines, la société africaine, notamment par les femmes, dans ces sociétés, dans ces communautés assez organisées selon le genre. Et elle est là avec ses enfants déjà. Elle a déjà eu un ou deux enfants, je me souviens plus. Et elle n'est pas nécessairement acceptée déjà par les femmes africaines qui la regardent en ricanant. Elle s'aperçoit, son mari n'est pas non plus très souvent là. Elle s'aperçoit que le
couple ne marche pas d'ailleurs forcément très bien.
Ça ne marche pas très bien. Entre le rêve, l'espoir et la réalité, elle voit vraiment l'écart. Et donc tout ça commence pour elle à se dire, elle commence à se poser des questions. Elle n'est pas tellement... Oui, elle ne parle pas d'années très heureuses, nécessairement. Si on peut en croire ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit à ce moment-là.
Donc c'est tout de même une dizaine d'années en Afrique. C'est aussi le moment où elle va imaginer, sans doute, ce grand roman qui est Sékou, en allant visiter un certain nombre de lieux dans ce continent. Sékou qui sera un roman historique, un roman aussi engagé, sur le Mali. Et donc il y a aussi la découverte culturelle quand même.
La découverte de l'existence de grandes civilisations dont elle veut comprendre pourquoi d'abord cette existence, elle n'en a jamais eu connaissance, c'est très très refoulé, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été aussi les autres moments historiques avant la colonisation européenne pour que l'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la colonisation européenne, qu'elle a existé auparavant, qu'il y a eu des royaumes, qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu... Donc elle va vouloir faire toute cette recherche. Maryse est très curieuse, c'est ça qui est... Elle est vraiment extraordinaire pour ça, elle ne perd rien de sa curiosité au fil des ans. Et quand elle se met, elle a voulu écrire, comprendre, mais pourquoi tout ça avait dit, on n'en parlait pas. Elle s'est lancée, et puis elle fait ce roman, et elle l'écrit, elle en écrit donc plusieurs volumes, pour aussi, pour elle-même, et puis pour faire connaître cette histoire.
Pour faire comprendre au monde entier, oui, qu'il y avait en Afrique, qu'il y a en Afrique des civilisations très profondes.
Très profondes, qui, et donc qui perdurent au sens où elles n'ont pas, elles ont peut-être disparu en tant que, qu'organisation sociale, mais n'ont pas disparu en tant que mémoire et histoire. Je veux dire, les colonisations se greffent sur ces histoires, elles ne les effacent pas. Des royaumes ont existé, des grandes villes ont existé, des universités ont existé bien avant l'arrivée des Européens, qui avaient des liens commerciaux d'un endroit du continent à l'autre, ou avec l'Asie, ou avec ce qu'on appelle le pays du Golfe maintenant, du Golfe arabique, donc, entre le nord et aussi et le sud de l'Afrique. Et elle montre ce monde extrêmement vivant, extrêmement plein d'énergie, qui est là et qui surtout fait mentir cette image d'une Afrique en attente passive et en attente de l'arrivée des Européens pour la civiliser et la réveiller.
Françoise Vergès, on va reprendre cette conversation et continuer de raconter la vie de Maryse Condé dans quelques minutes, juste après les conseils littéraires dans Compagnie des Revues.
La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
En compagnie des revues et en compagnie précisément de la revue Page des libraires, représentée aujourd'hui par vous-même, Anne-Sophie Rouvelou, bonjour.
Bonjour.
Puisqu'on parle de Maryse Condé cette semaine, vous souhaitez lire votre lecture de son livre Histoire de la femme cannibale avec deux ouvrages et une bande dessinée en lien avec l'Afrique, le racisme, l'esclavage, les origines.
Tout à fait, oui, c'est un ouvrage vraiment particulier de Maryse Condé qui m'a donné un petit peu l'inspiration, l'envie de faire la sélection d'aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez dit, c'est Histoire de la femme cannibale, où on fait la connaissance de Rosélie, qui est une Antillaise qui est installée en Afrique du Sud, donc au Cap. Et en fait, Rosélie, elle essaie de survivre au meurtre de son mari qui a été assassiné dans une ruelle. Et en fait, elle se retrouve complètement perdue parce qu'il était tout pour elle, mais aussi parce qu'elle l'a suivi dans le monde entier, au gré de ses affectations de poste, parce qu'il était professeur. Donc, elle se sent étrangère partout. Et en fait, cet ouvrage, évidemment, moi, je l'ai trouvé assez désenchanté parce qu'elle relate un petit peu, donc, le personnage, toutes les difficultés qu'elle a eues parce que son couple était mixte, par rapport aux préjugés, en fait, que les gens avaient, les incompréhensions, sur la couleur de peau, sur le racisme qu'elle a pu rencontrer. Et en fait, il y a une formule que j'ai notée parce qu'elle m'a vraiment marquée, qui est un moment où Rosélie dit « Le monde est un linge mal repassé dont on ne peut corriger les faux plis ». Et c'est du coup ce poids un petit peu du passé qui m'a marquée et qui m'a permis un petit peu de faire le lien avec la sélection d'aujourd'hui.
Alors cette sélection, elle commence avec « No Home » de Yaa Gyasi, ce livre de poche.
Exactement, c'est un ouvrage que j'ai trouvé absolument remarquable parce que j'ai trouvé qu'il se dévorait vraiment comme une grande saga. Il démarre au XVIIIe siècle au Ghana, en plein commerce triangulaire. On va suivre Efia et Essi, qui vivent dans deux villages différents. Ces deux femmes, en fait, ces deux jeunes femmes plutôt, elles sont demi-sœurs, mais elles l'ignorent et elles vont avoir deux destins opposés. C'est-à-dire que Efia, elle, va être offerte comme épouse au capitaine anglais du fort de Cape Coast et aura une existence, j'ai envie de dire, un peu plus protégée, bien que, voilà, que sa sœur, qui est Essi, qui, elle, va être vendue comme esclave et qui est emprisonnée dans un cachot du fort, à quelques mètres même de sa sœur, qui pourtant l'ignore, et qui va être en fait embarquée sur un bateau négrier à destination des États-Unis. Mmh. Sachant que ça, c'est le point de départ du roman, et ce qui est très très fort, c'est qu'on va suivre en fait l'arbre généalogique de ces deux sœurs, c'est-à-dire que chaque nouveau chapitre va vraiment aborder un membre de leur descendance en fait. Ce qui permet évidemment de parcourir peut-être 250 ans de l'histoire, d'aborder des sujets comme tout ce qui est les arrangements un petit peu commerciaux qu'il y avait entre les esclavagistes et certains membres de tribus africaines. On est évidemment dans les plantations de coton et on arrive aussi, et c'est très intéressant et ça nous permet de faire le lien avec notre actualité, on arrive aux États-Unis de nos jours avec des cas de violence policière. Et sachant que ce roman est vraiment exceptionnel parce que, évidemment, ça nous parle de notre passé, mais ça garde une conscience un petit peu ouverte, un petit peu par rapport à notre actualité.
Votre deuxième sélection parle aussi du passé des États-Unis. C'est 5 branches de coton noir, c'est chez Dupuis par Sant et Cusor.
Tout à fait, ouais. Et cette bande dessinée, elle a un thème évidemment qui est très fort. C'est aussi un objet qui est magnifique. Les dessins tout en noir et blanc, ils sont vraiment superbe avec les expressions sur les visages. Et donc, pour revenir à l'histoire, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va suivre deux époques en parallèle. C'est-à-dire que la première, on est à Philadelphie. En 1776, on est avec une domestique qui s'appelle Angela Brown et qui coud comme ça deux étoiles noires, en fait, dans un drapeau qui va devenir la bannière étoilée des États-Unis. Et elle coud ces deux étoiles noires, qui est un symbole très fort, parce que deux de ses proches ont été assassinés par des Blancs. Mmh. L'autre période, elle est à Douvres, en 1944. On est avec un soldat américain qui s'appelle Lincoln et qui a été envoyé en renfort en Europe pour combattre l'Allemagne nazie. Mais vu qu'il est noir, on le met de côté, on le cantonne aux Bastaches. Mais grâce à sa sœur qui vient de découvrir les mémoires d'Angela, il va être intégré à une escouade spéciale, en fait, chargée de rechercher cette fameuse bannière étoilée qui est tombée aux mains des nazis.
Mmh, donc un très beau roman graphique en noir et blanc. Et puis L'arme blanche chez Lattès, oui, par Harry Kunzru.
Oui, alors celui-ci, je le défends vraiment mordicus parce que c'est un ouvrage qui est très, très, très surprenant. Ça se passe de nos jours, en fait. On est avec deux jeunes qui sont amis. Il y a Carter, qui est un jeune homme qui est riche, qui est plutôt fort en gueule, et Seth, son ami, qui est plus réservé, qui vivote un petit peu. Et ces deux-là, en fait, ce qui les réunit, même s'ils sont très différents, c'est leur passion pour la musique et le blues en particulier. Mmh. Et un jour, Seth va enregistrer un chant comme ça dans un parc new-yorkais, un chant qui semble avoir un petit peu traversé les temps. Et ces deux-là, ils vont décider d'en faire un morceau de musique, mais comme si c'était quelque chose d'authentique qui date de 1928, un morceau de blues. Et donc, ils vont appeler ça le Graveyard Blues d'un certain Charlie Chaux. C'est une supercherie, sauf qu'un collectionneur va un petit peu les harceler, entre guillemets, et leur dire « Non, mais Charlie Chaux a vraiment existé. Vous allez voir, il y a une histoire, ce nom va vous porter malheur. » Et effectivement, quelques jours après, Carter, il va être retrouvé battu à mort dans une ruelle. Et à partir de ce moment-là, je ne vous dis rien, parce que là, comme ça, ça peut paraître compliqué un petit peu le lien avec tous les thèmes que j'ai évoqués avant, mais ça sera à vous de voir, parce que là aussi, il y a un lourd passé ségrégationniste, il y a aussi tout ce que les Blancs ont pris à la culture noire, et je vous laisse vraiment découvrir un petit peu le secret derrière ça, mais sachez qu'on part dans une sorte de récit, on a l'impression d'être dans un film de David Lynch, et c'est brillant.
L'arme blanche, c'est chez Lattès, Françoise Vergès, est-ce que vous retenez une chose en particulier de la sélection?
Go Home, je l'avais lu quand il est sorti. Le dernier, non, j'en ai pas entendu parler.
Et le roman graphique, vous les consommez
comme les autres livres, celui-là. Mais je lis beaucoup en anglais, donc dès que les livres sortent, je les lis avant qu'ils soient traduits. Donc souvent, je les ai déjà lus quand ils sont traduits.
Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci. Je rappelle que vous êtes libraire à la librairie Chronique de Cachan et collaboratrice du magazine Page des libraires. À très bientôt. La compagnie des auteurs sur France Culture, elle est consacrée jusqu'à jeudi à Maryse Condé. Et pour repartir dans cette seconde partie, cet extrait d'un entretien de 1984 avec Daniel Maximin.
C'est pas très simple. Il est évident que j'étais une Antillaise et que je n'avais aucune connaissance de l'Afrique. Je ne savais pas, comme toutes les Antillaises, élevées aux Antilles, je n'avais pas d'image précise de l'Afrique et je ne m'y intéressais pas particulièrement. Mais il s'est passé un moment de ma vie, un événement très important dont j'ai pas tellement envie de parler, après lequel il m'a fallu tourner le dos complètement à ce que j'avais été jusqu'alors. Alors, je me suis lancée, pour oublier certains faits, je me suis lancée dans le militantisme étudiant avec des étudiants africains. Pourquoi le militantisme? Parce que ça vous permet d'oublier vos problèmes personnels, vos petits déboires, vos petits soucis. Pourquoi étudiants africains? Parce que justement, il me semblait que les étudiants africains étaient beaucoup plus loin de moi que par exemple des Français que je côtoyais à cette époque-là. Ça se situait dans les années 50. Oui, à cette époque-là, c'était ça. Dans les années 50, quand j'ai commencé à militer avec des étudiants africains, c'était justement pour me fuir et fuir le milieu qui était le mien. Il me semblait qu'en allant avec eux en Afrique, j'allais très très loin de moi-même.
Et puis
Puis c'était aussi le grand combat de la décolonisation, le moment où des dizaines d'étudiants antillais, martiniquais, guadeloupéens, guyanais partaient, comme il dit, servir en Afrique. C'était le temps de Sékou Touré, le temps des indépendances africaines.
Oui, mais moi je ne suis pas partie justement, c'est ça qui est intéressant, je ne suis pas partie pour ça. Je suis partie d'abord parce que je voulais absolument m'en aller très très loin. L'Afrique. Et qu'il me semblait que l'Afrique était le lieu le plus loin de moi-même, le plus éloigné de moi-même. Et c'est quand je suis arrivée en Afrique, avec un mari que j'avais choisi parce qu'il me paraissait profondément différent de moi, que je me suis aperçue qu'en fait l'Afrique était une terre qui était la mienne. Et si vous voulez, c'est là, en arrivant là, que j'ai commencé à m'engager, si vous, on peut employer ce terme extrêmement galvaudé, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me battre avec les camarades, avec les copains.
Alors Françoise Vergès, on le comprend de plus en plus, je crois, la question politique pour Maryse Condé, elle est aussi une question personnelle, elle est aussi un sentiment, elle est aussi une émotion. Ces deux choses-là semblent toujours chez elle. Alors vous allez me dire c'est toujours comme ça, mais peut-être encore plus que pour d'autres personnes mêlées.
Oui, je pense que pour toute une génération à partir des années 50, la question de la décolonisation, elle n'est pas simplement la réappropriation de la terre et du pays, mais la question de l'émancipation de soi. Alors évidemment, on pourrait reciter Fanon, mais même des tas d'auteurs, que ce soit dans la littérature ou en politique, il ne suffit pas de libérer le pays, il faut libérer soi-même. Mmh. Il y a quelque chose qui nous a aliénés. Il y a quelque chose, même le vocabulaire, on parle dans une langue qui ne nous permet pas de dire qui nous sommes. Donc il y a cet effort de liberté. Et Marie, là, ce qui est peut-être vraiment singulier, c'est qu'elle est à la recherche de cette liberté. Alors je sais qu'une femme libre, c'est totalement galvaudé. Tout le monde, de toute façon, est libre aujourd'hui. Je suis libre. Mais là, cette liberté est quelque chose qui fait vraiment prendre un risque, parce qu'on va vraiment plus loin de soi pour rechercher ce qui vous a entravé, quelles ont été les entraves que vous êtes mis vous-même ou qui vous ont été mises. Mais donc d'aller au plus loin de ça, ce qui fait se découvrir soi-même et peut-être des choses qu'on n'avait pas envie de découvrir. Et en ça, Maryse n'a pas peur. Elle n'a pas du tout peur de ça. Et je pense que c'est ça qui est frappant pour les personnes qui la connaissent ou qui lisent son travail, c'est de voir à quel point elle n'a pas peur.
Mais est-ce que vous pensez qu'elle a atteint cette liberté qu'elle recherchait? Et est-ce que vous avez aussi le sentiment que cette quête, qui paraît être vraiment la quête de sa vie, que de ressentir l'appartenance à une terre, est-ce que vous croyez qu'après avoir vécu tout autour du monde ou presque, elle a fini par ressentir ce sentiment?
Ce qu'elle disait récemment, c'est que toutes ces questions d'identité, ça ne l'intéressait pas. Ça ne l'intéressait plus du tout. Mm-hmm. Elle trouvait des enfermements. Et que finalement, on était là où on était. Et puis, on choisissait l'endroit où on voulait être. Et à partir du moment où on faisait ce choix, on y était. On était là pleinement. Et elle a vécu, elle a grandi en Guadeloupe, elle a vécu en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique. Elle a vécu en France, elle a vécu aux États-Unis. Maintenant, elle vit de nouveau en France. Et elle a, chaque fois, je pense qu'elle a essayé d'être pleinement là où elle était.
Donc l'identité, finalement, c'est derrière elle. C'est derrière elle. D'une certaine façon, elle a résolu pour elle le problème.
Elle a résolu au sens, justement, pas nécessairement de trouver cette identité, mais de penser, de finir par conclure que l'identité, ça n'apporte pas grand-chose, au sens, si ce n'est que ça, ce n'est pas ça la liberté. Parce que, après tout, l'identité, dans le terme en français, il y a l'identité à laquelle on vous assigne, il y a celle à laquelle vous vous assignez vous-même en pensant que vous vous libérez, mais en fait, vous vous mettez notre prison, et qu'il faut rester assez ouvert, en fait. Non, je veux dire, les choses bougent. Il ne suffit pas de dire « je suis une femme » pour comprendre tout ce qu'on peut comprendre de la manière dont on vit ou de ce qui se passe autour de soi. Et là, Maryse n'a pas voulu du tout s'arrêter à ça. Au bout d'un moment, elle a compris que tout ça, c'était pas très intéressant.
Alors, d'un pays à l'autre en Afrique, elle a perdu son rêve mythique de l'Afrique. Elle est allée au Ghana, c'est un pays qu'on n'a pas encore cité. Là, on peut dire qu'elle a vraiment compris comment les indépendances africaines fonctionnaient et pourquoi elles fonctionnaient aussi si difficilement.
Oui, bon, le Ghana, n'oublions pas le rôle que le Ghana a joué. C'est Nkrumah qui est quand même un des plus grands dirigeants de la décolonisation africaine, qui est à la tête du Ghana. Le Ghana est vraiment au cœur. Beaucoup de gens viennent là, de Noirs, d'Africains américains. De W.B. Du Bois, qui est un grand philosophe, un grand historien africain-américain, vit là. D'autres viendront se réfugier au Ghana. Le Ghana occupe vraiment une place extrêmement importante dans le moment de décolonisation africain. Mais il est vrai que d'abord, il va avoir des dérives autoritaires dans les différents régimes africains. Il y a aussi les difficultés économiques qui ne sont pas simplement dues à des questions internes, mais qui sont dues au fait que les pays occidentaux ne laissent pas les pays africains se développer comme ils voudraient se développer, qu'il y a une dépendance qui se poursuit, que les richesses de l'Afrique continuent à être extraites pour l'Occident et pas pour les richesses africaines. Donc tout ça fait qu'au bout de quelques années, les promesses ne sont pas réellement tenues. Et qu'on a l'impression que, mais quand même, on aurait dû, je sais pas, éducation, santé, transport, enfin tout ce qui fait la vie sociale, culturelle, devrait mieux se porter. Et que elle s'aperçoit, comme d'autres d'ailleurs, que la pauvreté est toujours là, qu'une classe, une nouvelle caste est en train de se créer, qui est prédatrice ou autoritaire et militaire ou dictatoriale, et que donc il y a quelque chose qui fait que et qui va déboucher sur plusieurs années de pays soumis à des dictatures ou à des régimes policiers jusqu'à certains aujourd'hui.
En ce sens, elle est assez proche peut-être d'un écrivain comme Amadou Kourouma, qui va être aussi avec elle un des premiers à pointer justement l'envers des indépendances. Ils se connaissent d'ailleurs, je crois.
Oui, ils se connaissent. Il y a toute une génération, oui, très rapidement, assez rapidement, dès les années 60, fin des années 60, qui dans sa littérature ou dans des essais dénonce ce qui se passe et dit que oui, la promesse est trahie, que quelque chose doit se faire. Mais n'oublions pas que il y a des guerres qui continuent, hein. Les guerres continuent en Guinée-Bissau, en Mozambique, en Angola. L'Afrique, dans ces années-là, n'est pas encore entièrement libre.
Et puis on n'a pas eu le temps de dire que depuis 2005, qui est l'année de la retraite de Maryse Condé, elle vit à présent en France métropolitaine, à Gordes. Exactement, merci beaucoup Françoise Vergès d'avoir partagé avec nous votre regard sur la vie de Maryse Condé. Je rappelle donc votre documentaire Maryse Condé, une voix singulière, diffusé sur France 5 en 2011. Et puis plus récemment, vous avez publié Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme, aux éditions Albin Michel.
Le 10 mai, chaque année, sera commémorée la mémoire de l'esclavage. C'est une grande victoire du comité pour la mémoire justement de l'esclavage. Sa présidente, Maryse Condé, la grande écrivain guadeloupéenne, est avec nous sur ce plateau. Maryse Condé, pour vous, c'est la grande victoire que vous attendiez, cette commémoration?
C'est-à-dire que je pense toujours que les mots victoire, défaite, sont des mots un peu dangereux. Parce qu'ils opposent les communautés les unes aux autres, ils accentuent les divorces entre les gens. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est pour nous une grande joie, une grande satisfaction, beaucoup d'émotions, parce que nous avons travaillé pendant un an, patiemment, en silence, avec beaucoup de turbulences et de polémiques, et qu'enfin, le président a reconnu solennellement que le rapport était bon.
Moins payant pour voyage en avion, moins vrai cinéma, moins manger, moins bien vrai, moins dormi, moins levé. Ah bon, c'était français, moins t'es qu'à parler, mais les moins arrivé à Paris. Moins dormi dehors, moins dormi dehors, moins dormi en allô, moins dormi dehors, moins dormi en tout à métro. Fête, on va donc frigider. Ouais, pas même si non vient pilover. Ouais, vini si vraie misère. Ouais, t'es à cause en belle lèvre, sa faute de fille qui mettait moins dehors. ça qui plus belle encore. Moi Jacques a fait cloche, million situation folklorique. Moi dormi dehors, moi dormi en métro.
Quatre chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur France24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festiv'Ébène, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc est un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
What do the Francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Adair. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM. Chaque dimanche, de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne de la Faculté d'Éducation de l'Université de Toronto, le Département d'études langagières campus de Mississauga, la Chaire de Recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions prises de parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et priseparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur priseparole.ca. Popourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto, a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto. Cette année, notre partenaire Français du Monde, Toronto, vous invite à commémorer le 107e anniversaire de la bataille de Vimy, le dimanche 14 avril à 10h55, au cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto. Le comité Vimy Toronto 2024, avec ses institutions et associations, a à cœur de continuer cette commémoration afin que vive le devoir de mémoire, l'éducation, la conscience morale et notre engagement citoyen dans la lutte pour la paix dans l'avenir. La victoire de Vimy fut un événement fondateur pour le Canada. Nombre de contemporains et d'universitaires ultérieurs y ont vu un événement important dans l'évolution du Canada vers l'indépendance complète par rapport à la Grande-Bretagne. 107e anniversaire de la bataille de Vimy, le dimanche 14 avril à 10h55, au cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto. Retrouvez tous les détails sur popourrichaud.com. Les citoyens français, aux côtés de leurs amis canadiens, tiennent à exprimer leur reconnaissance et leur respect aux combattants canadiens qui ont combattu sur les terres de France et d'Europe pour défendre notre liberté. Nous comptons sur votre participation pour cette commémoration 2024. Quoi de neuf? Les Cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Duisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant.
Cause et Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti. Ritzamarum Zetren sur RFI.
Bonsoir à tous, nous continuons à prendre plaisir à vous présenter ce programme, l'un des rares qui résiste et continue à tenir tête à la conjoncture. Cette semaine, je me suis déplacé pour me rendre jusqu'à Delma 32 pour vous apporter votre programme et croyez-moi, dans le contexte actuel, marcher dans les rues est un acte qui devrait être célébré à force que la capitale est devenue invivable ces derniers temps. Mais nous sommes là avec la culture pour boussole, pour vous combler de bonheur et de bonne humeur.
La langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scènes.
scénarii. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs. Pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutif, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Difficile pour une femme née en Guadeloupe dans les années 30 de suivre des études prestigieuses et de devenir une grande écrivaine. Ce fut pourtant le destin de Maryse Condé, l'une des voix majeures de la littérature francophone et qui s'est éteinte la nuit dernière à l'âge de 90 ans. Bonjour Ilana Mor-Youssef.
Bonjour.
Maryse Condé regardait bien au-delà de la France où elle n'a pas eu de véritable reconnaissance.
En tout cas, peut-être pas toute la reconnaissance qu'elle méritait parce qu'elle a beaucoup vécu à l'étranger. C'est à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe que tout a commencé pour elle. À la maison, sa mère, institutrice, interdisait le créole. Il fallait parler français. Elle grandit sans avoir entendu parler de l'esclavage ou de l'Afrique. Elle le dira plus tard, c'est en arrivant à Paris pour étudier qu'elle a pris conscience qu'elle était noire. C'est aussi l'âge des premières amours. Elle tombe enceinte d'un journaliste haïtien qui l'abandonne dès l'annonce de sa grossesse, ce qui l'empêchera de faire normal sup. Elle l'a raconté dans son autobiographie « La vie sans phare ». Et au micro de Laura Adler en 2012.
Il est devenu un homme politique haïtien très important, considéré comme un héros, comme un modèle. Et la question que je pose à son sujet, est-ce qu'un homme qui a été dégueulasse pour employer un vulgaire avec une femme peut être considéré comme un héros, un modèle, un martyr?
Maryse Condé devient adulte en pleine effervescence post-coloniale. Elle découvre alors les travaux du psychiatre martiniquais Frantz Fanon, dont elle se réclame. Il n'y a pas, selon elle, d'identité commune à tous les Noirs.
Les Noirs, finalement, ne sont noirs que lorsqu'ils sont en face des Blancs. Évidemment, c'est très dur d'arriver à cette vérité. Ça prend du temps, c'est douloureux, c'est un peu décevant. Mais il faut y arriver si on veut un jour arriver à la liberté.
Son premier roman, à l'âge de 45 ans, est un best-seller. Ségou, une saga historique sur le déclin de l'Empire Bambara. D'autres de ses livres prennent racine dans la tradition orale. Par exemple, Moi, Tituba, sorcière noire de Salem. Ces dernières années, son nom circulait comme nobilisable.
Dimanche 7 avril 2024. CUTFM et Popourri Show présentent Hommage à Maryse Condé, grande voix de la littérature francophone, prolifique écrivaine guadeloupéenne et française. Une émission réalisée avec la collaboration de France 24, France Inter, RFI, TV5 Monde et Outre-mer News. Grande dame des lettres mondiales, l'écrivaine française née en Guadeloupe, Maryse Condé est morte dans la nuit du 1er avril à l'âge de 90 ans, après une vie de combat pour sa liberté et d'exploration des identités antillaises et noires. Révélée au grand public en 1984 avec Ségou, la romancière antillaise a vu son œuvre de renommée mondiale distinguée en 2018 par le prix de littérature de la Nouvelle Académie. Émission spéciale, hommage à Maryse Condé. Elle laisse une œuvre magistrale qui décrit dans un langage précis les ravages du colonialisme et le chaos du post-colonialisme. Montage, mixage, DJ Devera. Production et animation, Eric Kader.
Grand temps qui est donc consacré à cette grande figure de la littérature qui aura marqué son temps et qui laisse derrière elle une œuvre de renommée mondiale. Maryse Condé nous a quitté à l'âge de 90 ans. Plusieurs invités avec nous ce soir pour en parler. Véronique Poloma, directrice éditoriale France Télévisions. Paul Outremer, une amie, on va le voir, de Maryse Condé, bienvenue. Rodney Saint-Éloi en ligne tout à l'heure sera à Montréal. Estelle Sarabulle, écrivaine, merci d'être avec nous. Et puis nous avons également en direct direct de Marseille. Dorothée Mugnaneza, danseuse chorégraphe. Vous êtes inspirée du roman Moi, Tituba sorcière dans votre spectacle Toi, moi, Tituba. Voilà donc pour la présentation de nos invités. Avant de vous donner la parole aux unes et aux autres, notre partenaire La Première nous retrace le parcours de Maryse Condé. Récit signé Ludmila Zi.
11 février 1934, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, Maryse Condé voit le jour au sein d'une famille nombreuse. Sa mère est l'une des premières institutrices noires de sa génération. Son père fonde la Banque antillaise en 1955. À 16 ans, elle quitte son île pour étudier à Paris. C'est là qu'elle prend conscience de sa condition de femme et de sa couleur de peau. Inspirée par les écrivains de la négritude et les écrits anticolonialistes, elle se revendique dès lors guadeloupéenne indépendantiste. En 1961, elle s'installe sur le continent africain, une période qui lui permet de retracer ses origines et son identité, mais aussi d'écrire la saga à succès, Ses goûts.
Je suis partie en Afrique en croyant que j'allais très loin. Et en fait, arrivant en Afrique, je me suis rendu compte que j'étais très près de moi-même et que je découvrais tout un aspect de ma culture, un aspect de moi-même et de l'héritage de mes parents que je ne connaissais pas. En croyant fuir, en fait, je me retrouvais. C'est une histoire spécifiquement africaine, comme vous dites, parce qu'elle se passe dans le royaume de Ségou. Mais elle concerne les Antillais, bien sûr, parce que d'abord, elle concerne le passé des Antillais. Avant la grande cassure, évidemment, de l'esclavage, nous étions peut-être des Bambara, nous étions peut-être dans toute cette région, nos ancêtres y étaient peut-être, donc elle nous touche. Et puis ensuite, c'est une espèce de réflexion aussi. Il faut que les Antillais réfléchissent, et les Africains, les Noirs en général, réfléchissent un peu sur l'évolution de leur peuple, savoir comment bâtisseurs d'empire à la fin du XVIIIe siècle, ils sont maintenant les sujets de pays sous-développés, de pays quand même traumatisés par beaucoup de maux.
Elle part ensuite aux États-Unis où elle enseigne dans plusieurs universités, dont l'Université Columbia, et fonde le Centre des études françaises et francophones. Sa carrière est marquée par l'écriture d'une multitude de romans, de pièces de théâtre, d'essais et de livres pour enfants. Des œuvres qui lui vaudront prix, honneur et distinction de prestige. En mémoire de cette grande dame de lettres, un lycée en région Île-de-France est rebaptisé en son nom. Plus récemment, une plaque est posée sur la façade de sa maison natale en Guadeloupe. Maryse Condé passe les derniers instants de sa vie entourée de ses proches dans la paisible commune de Gordes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son parcours remarquable laisse une trace indélébile dans l'histoire de la littérature française et antillaise.
Véronique Poloma, vous qui regardiez attentivement ces images, on vous sent très émue. Vous avez appris la nouvelle et la triste nouvelle tôt ce matin.
Oui, j'ai reçu effectivement un message d'une des filles de Maryse Condé. Et même si je m'attendais effectivement à ce qu'elle me quitte, ça faisait 4 jours qu'elle était hospitalisée, c'est vrai que j'ai éprouvé forcément une immense tristesse et un grand vide également.
Que représente-t-elle pour vous? On a vu dans ce reportage, ce lycée notamment, vous êtes à l'origine de ce projet.
En fait, c'est un projet que nous avons initié avec Chantal Aounou, qui est élue de la ville de Sarcelles. Nous sommes rencontrés à Avignon dans le cadre du festival et c'est vrai qu'on avait envie ensemble de piloter un projet qui permette de faire connaître l'œuvre de Maryse Condé dans les écoles de France. Je précise que Maryse a enseigné dans de grandes universités américaines et qu'elle avait, je pense, quand même cet étonnement de n'être absolument jamais sollicitée par les établissements français. Donc avec Chantal, on s'est lancé dans ce défi.
Pourquoi, selon vous, est-ce que vous en aviez parlé avec elle? Pourquoi elle avait ce sentiment-là? Est-ce par son engagement, notamment, entre guillemets, indépendantiste? On peut même enlever les guillemets.
Je ne sais pas si je fais le lien, je ne me permettrai pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'elle avait une réelle reconnaissance aux États-Unis, que son œuvre était très connue, très travaillée, et que malheureusement, eh bien, son œuvre n'était pas enseignée dans les écoles françaises. Et nous, en tout cas, ça nous révoltait, peut-être encore plus qu'elle, mais elle avait cet étonnement de ne pas être davantage sollicitée.
Oui, vous êtes d'accord, on voit qu'essayer, c'est assez frappant hein, quand on voit...
C'est pas la seule, hein, mais c'est vrai qu'il y a comme ça une absence ou une méconnaissance de la part de la France des richesses qu'elle a en elle-même.
Alors qu'il suffit de regarder les réseaux sociaux aujourd'hui, le nom nombre d'hommages du monde entier et en plusieurs langues, c'est assez saisissant.
Tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose entre le rapport de l'Hexagone et des Caraïbes qui n'est pas encore bien résolu et qui fait que la Caraïbe rayonne partout, sauf vis-à-vis de sa métropole, entre guillemets.
Alors, vous y verrez un clin d'œil, mais je regardais 2018 Nobel de littérature alternative pour Maryse Condé. Je dis d'ailleurs, on dit alternatif, c'est un prix Nobel. C'est vrai qu'il y avait eu des affaires à l'époque qui avaient secoué l'institution du Nobel, et donc on avait décerné ce prix. Et 2018, c'est aussi quoi? C'est aussi votre premier roman. Là où les chiens aboient par la queue, il est question de la métropole et de la Guadeloupe également. En quoi vous a-t-elle inspiré?
C'est un modèle multidimensionnel pour moi, évidemment, parce que savoir qu'on a une telle aînée en littérature, ça ouvre la voie et ça permet de se dire qu'on le peut en étant femme, en étant guadeloupéenne. On n'a aucun problème à aller sur sa route. Et ensuite, c'est un modèle de femme parce qu'elle s'est accomplie dans tellement de domaines. On pense à la littérature et au roman, mais il ne faut pas oublier qu'elle a été journaliste, qu'elle a été donc grande professeure.
À la BBC notamment.
Voilà. Elle a enseigné longtemps, elle a aussi un parcours très, très fin sur la littérature comparée, avec beaucoup d'essais, elle a beaucoup analysé ça, elle a permis aussi aux Antillais de se comprendre eux-mêmes et de comprendre leur place dans l'universel via la littérature et la comparaison avec d'autres littératures, donc elle est vraiment très complète.
Dorothée Mounianeza, en direct de Marseille, quel est le premier roman que vous avez lu de cette grande autrice guadeloupéenne, Maryse Condé?
Moi, Tituba Sorcière, c'était le premier roman que j'ai lu d'elle.
Ouais. Et forcément, ça vous a donné envie de le mettre sur scène. On va regarder un extrait de votre spectacle, Toi, moi, Tituba, inspiré donc du roman de Maryse Condé, Moi, Tituba Sorcière, on regarde. En quoi ce roman se prête-t-il, selon vous, à la scène et à la danse?
En fait, je dirais une chose d'abord, c'est que le spectacle Toi, moi, Tituba est parti de deux endroits. La première source, c'est le texte d'Elsa Dorlin, la grande philosophe, qui s'appelle « Moi, toi, nous, Tituba ou l'ontologie de la trace ». Et ce texte part lui-même de l'œuvre de Maryse Condé. Donc c'est une œuvre en fait qui est nourrie ou qui a comme fondation ces deux grands textes et qui pour moi sont liés évidemment au corps, sont liés à la mémoire, sont liés aux archives, toutes les questions qui m'interpellent et qui m'habitent pour mon propre travail et qui rendent aussi hommage aux êtres invisibilisés, aux êtres esclavagisés, aux êtres dominés et en même temps la puissance de la réparation, par le geste, par l'acte même de création.
Vous êtes née à Kigali, vous avez des racines au Rwanda, du côté britannique allemand. Vous confiez, est-ce qu'elle était connue au Rwanda d'ailleurs?
Maryse Condé, vous voulez dire?
Oui.
Non, moi j'ai vraiment rencontré Maryse Condé, enfin son univers, son monde, en arrivant en France. Donc je ne l'ai jamais connue au Rwanda. Cependant, depuis que j'y retourne pour mon propre travail, j'offre beaucoup ce roman à mes amis.
Un roman que l'on peut offrir et offrir encore quand on aime la littérature. La réaction du président français Emmanuel Macron maintenant, géante des lettres, Maryse Condé a su peindre les chagrins et les espoirs de la Guadeloupe à l'Afrique, de la Caraïbe à la Provence, dans une langue de lutte et de splendeur unique, universelle, libre. Tiens d'ailleurs une anecdote, elle avait reçu en 2020 des mains du président Emmanuel Macron la Grand Croix de l'Ordre National du Mérite lors d'une cérémonie à l'Élysée, et il avait une phrase assez intéressante, Emmanuel Macron, qui reprenait de son mari, je crois. Vous connaissez l'anecdote?
Oui, concernant le fait qu'elle était indépendantiste.
Oui.
Oui, tout à fait. Oui, il avait ironisé. Je ne connais pas la phrase par cœur, mais enfin, il avait effectivement fait un peu d'humour du fait qu'elle était indépendantiste et qu'elle avait déjà reçu de nombreux prix.
Richard Philcox, donc Emmanuel Macron avait dit, Richard disait que vous étiez, j'ai retrouvé la phrase, que vous étiez résolument l'indépendantiste la plus décorée de la République. Mais elle disait vraiment que son rêve, c'était de présenter un jour son passeport guadeloupéen aux officiers de la douane de Roissy. et ça a rythmé son écriture, on imagine, au fil du temps. On sent parfois que les gens sont presque décontenancés de voir une Guadeloupéenne, en fait, prendre à bras-le-corps la question du colonialisme de l'Afrique et découvrir sa négritude, parce que dans ses écrits, elle raconte comment elle a découvert sa négritude.
Tout à fait. Et puis Maryse était très fière de dire qu'avant toute chose, elle était Guadeloupéenne. Et elle le disait avec énormément de fierté. Mmh. Elle était avant tout, par-dessus tout, Guadeloupéenne, mais en même temps tellement universelle.
Tellement universelle. C'est vrai qu'on ne saurait la mettre dans une seule identité. Ce qui est assez aussi intéressant, c'est qu'elle disait à 12 ans, je savais lire tout Victor Hugo. Par contre, elle découvre ces mots d'Aimé Césaire que je vais lire lorsqu'elle a 20 ans. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages, de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo, océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Et elle dit, je ne saurais décrire l'effervescence que ces lignes causèrent en moi. L'effervescence.
Mm-hmm. Mais oui. Mais parce que c'est une réponse aux éternels bienfaits de la colonisation, selon certains. Donc là, elle répond à ça et il y a une colère en elle qui est normale. Il faut dire aussi qu'elle a vécu les indépendances africaines. Elle était au cœur du mouvement dans les années 60. Donc elle voit les effets de la colonisation et de la décolonisation. Et la petite Guadeloupe, comme la petite Martinique, sont des confettis de ce qui reste de l'Empire français quand les pays africains prennent leur indépendance. Et je pense qu'elle a été formée à ça politiquement, avec une certaine conscientisation. Et le fait de quitter son île, ça permet parfois, quand on quitte l'île, d'avoir un meilleur regard sur son île et sur sa situation que quand on vit dedans. Mmh. Donc autant, effectivement, tant qu'elle était dans l'île, c'était Victor Hugo, c'était les grands classiques de la littérature française. Mmh. Et une fois qu'elle sort de l'île, c'est là qu'elle découvre sa propre culture.
Ouais. Ouais, elle disait que sa maman lui a appris à lire les contes de Perrault, mais qu'effectivement, elle a découvert bien d'autres pans de la littérature francophone et littérature tout court. Rodney Saint-Éloi, vous êtes en direct de Montréal, au Québec, au Canada, écrivain, fondateur de Mémoire d'Encrier, maison d'édition que l'on connaît bien à TV5 Monde. Rodney Saint-Éloi, quelle a été votre réaction au-delà de la tristesse quand vous avez appris la disparition de Maryse Condé aujourd'hui?
Oui, j'ai été un peu très ému, très déconcerté par cette nouvelle. On s'y attendait. Elle était malade, on savait qu'elle était malade. Mais avoir la nouvelle, c'est comme si on a l'impression qu'il y a un baobab qui est tombé. Mmh. Donc c'était ça. C'était comme si... Et puis ça m'a beaucoup attristé, cette nouvelle, bien qu'on savait qu'elle était malade.
Mmh. Est-ce que vous diriez qu'elle était beaucoup plus connue aux Amériques, et je dis bien aux Amériques, notamment États-Unis, Canada, Haïti aussi, dont vous êtes originaire, qu'en métropole?
Oui, c'est la question. Et je pense que Estelle a posé vraiment, en fait, la question. La vérité, c'est qu'il y a eu un certain mépris sur Maryse Condé et sur son œuvre, parce que Maryse Condé a été complètement invisibilisée juste avant, en fait, après le Nobel alternatif. Et quand elle a eu le Nobel alternatif, tout le monde disait il était temps. Et Maryse Condé me disait un jour à Paris, je fais partie d'une génération qui n'existe plus. Donc, elle avait cette conscience de l'invisibilisation qu'il y a eu sur elle. Et donc, en Amérique, quand elle est arrivée à Columbia, donc, il y a eu un des moyens, et Maryse Condé nous a fait comprendre au mieux ce que c'était la francophonie. C'est-à-dire que pour la France, en fait, c'est un rapport très, très difficile avec ses colonies, ou ses anciennes colonies, ou son outre-mer. Maryse Condé a toujours été considérée comme une écrivaine de second ordre. Alors que Maryse Condé devait être comme Aimé Césaire, comme
François Fanon.
Maryse Condé devait être un pilier de la négritude. Parce que l'œuvre de Maryse Condé est fondamentale pour moi. Quand j'ai commencé à écrire, quand on découvre ses goûts, quand on découvre... Maryse Condé nous a fait découvrir tellement d'imaginaires, tellement d'univers qui ne nous étaient pas accessibles. Et donc, je pense que c'est une œuvre monumentale. Malheureusement, la France est passée un petit peu à côté.
Vous la mettez dans la lignée d'Aimé Césaire et de Frantz Fanon, pour ne citer que.
Alors moi, j'ai du mal à la mettre dans une lignée. Pour moi, elle était tellement unique, elle était tellement
Oui, on n'en a pas elle-même. Parlé. Il y a la dimension de femme aussi, elle était tellement elle-même. C'est une femme
elle
aussi.
Elle fait partie, bien sûr, de ces grands penseurs, mais bon, Maryse était, voilà, je pense...
Quelle femme était-elle dans la vie?
Alors, de mon expérience, c'était une femme très généreuse, très attentive aux autres. Moi, j'avoue qu'elle m'a souvent touchée par l'attention qu'elle pouvait m'apporter en me téléphonant, se préoccupant de ce que je devenais. Donc, beaucoup d'attention, une belle présence, une femme d'une intelligence fulgurante.
Et voilà, ces mots aussi qu'elle disait il y a quelques années. Alors, que conclure, disait-elle après un long texte, mais précisément, faut-il conclure ? Ne concluons pas, rêvons plutôt, imaginons. Voilà donc pour cet hommage à Maryse Condé qui nous quitte à l'âge de 90 ans. Merci beaucoup René Saint-Éloi à Montréal. Dorothée Mounianeza en direct de Marseille. Et puis Estelle Sarabu, l'écrivaine, et Véronique Poloma, directrice éditoriale France Télévisions. Paul Outremer et ami de Maryse Condé. Merci à toutes les quatre et tous les quatre d'avoir été avec nous.
Vous avez à la fois la capacité de nous jouer des ruses, d'incorporer beaucoup d'ironie, mais il y a toujours cette honnêteté qui est là.
Cette honnêteté, comme vous l'appelez, n'a pas toujours été facile à préserver. J'ai toujours pensé que écrire, c'est quelque part dire la vérité. Dire ce qu'on pense sur les gens, sur les problèmes politiques, sur les problèmes sociaux, sur les siens, sur les autres, sur soi-même aussi. Donc finalement, je pense, et je l'ai découvert très tôt, que dire la vérité ne plaît pas à tout le monde. Il y a un proverbe qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Donc quand vous essayez de dire la vérité, de dépeindre les choses et les êtres comme vous les voyez, évidemment vous êtes amené à choquer, à déplaire. Donc depuis mon premier livre, R.M.A. Conan, j'ai eu des problèmes avec le public. Comment lire un livre? Les gens très souvent le disaient au premier degré, ne voyaient pas ce que je voulais vraiment dire au fond. Et souvent, on me faisait le reproche d'être négative, alors qu'en fait, tout ce que je voulais faire, c'était attirer l'attention sur une situation, et peut-être, avec un peu de réflexion commune, arriver à trouver une solution. Ségou a été très mal reçu par les Africains, parce qu'il y avait une critique contre l'islam. Les derniers rois mages a déplu parce qu'il y avait une critique contre les Noirs américains, Africains-américains. Désirada, une critique contre la société guadeloupéenne, les rapports entre mère et fille. Finalement, je crois que tous les livres que j'ai écrits, d'une manière ou d'une autre, ils ont provoqué une sorte de réaction de défense de certaines catégories de lecteurs. Mais je pense que les lecteurs qui sont sensibles au fait qu'on se cherche et qu'on se cherche sans mensonge, sans faux semblant, ils ont été finalement séduits par ces livres.
Je t'ai déjà.
Et oui, c'est la voix du regretté Jacob Desvarieux que nous venons d'entendre, grand musicien, chanteur inimitable, né en Guadeloupe, cofondateur du groupe mythique Cassave. Il est passé chez nous à plusieurs reprises. Il nous manque tellement. Édition spéciale, hommage à Maryse Condé, écrivaine guadeloupéenne et française, la liberté d'écrire. Une émission présentée par CUT 89,5 FM, Université de Toronto et Popourri Show, en partenariat avec Radio France Internationale, France 24, France Inter, TV5 Monde, Outre-mer News et plusieurs collaborateurs. D'ailleurs, je remercie chaleureusement notre amie de toujours, Senaya, musicienne, entrepreneur, productrice à Montréal, doctorante en langue et littérature française, Université des Antilles. Sa thèse a constitué la notion d'humanisme chez Léopold Sédar Senghor, Édouard Glissant, Maryse Condé. Elle écrit, je cite, « Je viens d'apprendre le décès de Madame Maryse Condé, mon écrivaine préférée, un peu sous le choc, même si je savais qu'elle était affaiblie ces derniers temps. » Même si pleine de choses, on n'est jamais prêt à perdre quelqu'un qu'on aime, quel que soit son âge, ses conditions de santé. Madame Maryse Condé m'a donné tant de choses à travers ses romans, mais aussi à travers elle, cette personnalité flamboyante, cette lumière comme un phare dans ma vie. Elle a été un exemple, une inspiration, l'expression vivante, que tout était possible, que c'était possible d'être libre, d'être femme, belle, classe, talentueuse, phénoménalement intelligente, cette intelligence du cœur et de l'esprit tout à la fois. Il y a tant de choses à dire, je le dirai plus tard. Merci Madame Maryse Condé pour l'empreinte que vous laissez dans ma vie. Merci pour cette thèse que j'ai commencée sur vous et sur Senghor Glissant. Je vous aime, je vous embrasse, à bientôt. Cette note est accompagnée avec une très belle photo où on voit Madame Maryse Condé chuchoter à l'oreille de Senaya. Un moment mémorable. Merci, chère Senaya, et mes sincères condoléances. Plusieurs médias en Europe, en Afrique et dans les Antilles ont rendu hommage cette semaine à cette grande dame des lettres antillaises et françaises, professeure de littérature. Même si elle nous a rendu visite à quelques reprises, d'ailleurs on l'a reçue sur cette antenne, elle reste méconnue dans nos médias officiels francophones au Canada. Oui, il faut le dire. Elle était très connue aux États-Unis où elle a vécu plus de 20 ans, à New York où elle a ouvert un centre d'études francophones à l'Université de Columbia. Son éditeur Laurent Lafont, très ému, se rappelle de son aventure dans plusieurs maisons d'édition. Il dit, je cite, « J'étais profondément admiratif de son rayonnement, de son courage. Elle a donné l'envie à énormément d'écrivains de se lancer et de combattre avec elle. » Notre collègue Tietankar Chanda, journaliste à Radio France Internationale et à Jeune Afrique, enseignant de littérature postcoloniale à l'Université Paris 7 et à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, écrit un très bel article que je vous recommande. C'est sur le site de Radio France Internationale. Il écrit « La vie de Maryse Condé n'a pas été un long fleuve tranquille. L'écrivaine en a raconté dans ses récits autobiographiques les lignes de rupture mettant en scène le chemin qu'elle a dû se forger entre les dictats de sa famille, les circonstances de la vie et ses propres obsessions. Elle était née dans une famille noire bourgeoise de la Guadeloupe. Ses parents appartenaient à la première génération de Noirs qui, grâce au républicanisme égalitaire à la française, avait su s'arracher à la misère et à la pauvreté qui était le lot des enfants et des petits-enfants des anciens esclaves. Elle quitte l'île natale à l'âge de 16 ans et débarque seule à Paris pour poursuivre ses études au prestigieux lycée Fénelon, rêvant d'entrer à l'école normale supérieure. Elle suit aussi un cursus d'histoire à la Sorbonne, mais son rêve de faire carrière dans l'enseignement s'effondre rapidement lorsqu'elle se retrouve enceinte, abandonnée par son amant haïtien et rejetée par sa famille. Elle était réduite à s'occuper seule de son fils. Parallèlement à cette dérive sentimentale et matérielle, la jeune femme vivait une révolution intellectuelle. À l'origine de cette révolution, sa découverte du volume à couverture rouge et intitulé « Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire » paru aux éditions Présence africaine. Cette lecture va lui désilier les yeux et la révéler à elle-même
pour ce qu'elle était. Elle s'est découverte noire. Mes parents, ne m'ayant jamais parlé de l'esclavage, je croyais que les Noirs poussaient aux Antilles comme les goyavés, poussant aux goyaviers et les fleurs parfumées de Lian Yan, aux arbres au même nom. C'est à la lecture de Césaire que j'ai compris que la présence des Noirs sur le continent américain n'allait pas de soi et qu'elle était le résultat d'un processus historique. Cette découverte capitale, doublée d'un esprit de révolte par rapport à sa famille, n'est sans doute pas étrangère à la décision que prit la future romancière à l'âge de 22 ans de partir vivre en Afrique. Les personnages de Maryse Condé sont souvent des femmes fragiles, plurielles, hétérogènes comme l'auteur elle-même. Marginalisée, elle tente inlassablement à travers les vicissitudes de la vie et du monde de prendre leur destin en main et d'affirmer leur liberté. Elles ont pour nom Tiduba, Rosélie, Célanir ou encore Victoire, la grand-mère maternelle à laquelle la romancière a consacré l'un de ses livres les plus émouvants. Maryse Condé a écrit plusieurs best-sellers et son nom a été cité plusieurs fois pour le prix Nobel de littérature. Le Collège de la Désirade est le premier établissement scolaire de France à porter son nom. Depuis 1995, ce collège fait vivre les œuvres de Maryse Condé dans le cadre du pôle Relais Culture. Parmi les écrivains de la Caraïbe francophone, Maryse Condé se distingue par son côté fondamentalement rebelle, provocateur et contestataire. Habitée par le combat entre révolte et espoir, celle qui s'est mise à écrire sur le tard avait abordé dans une trentaine de livres l'Afrique, l'esclavage et les multiples identités noires. Son franc-parler va lui coûter très cher dans certains milieux, y compris en France. Je vous rappelle que Maryse Condé était aussi journaliste à RFI, la BBC, dramaturge, auteur pour la jeunesse, essayiste et romancière. Elle a également été professeure dans plusieurs universités. D'ailleurs, je vous propose d'écouter battre le cœur de cette grande écrivaine lors d'un grand entretien et la remise d'un prix littéraire. C'était un 2 juin 2019 au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée dans le cadre de la 3e édition du festival « Oh les beaux jours ». Lecture de Eva Doumbia. Un moment exceptionnel.
Je ne sais comment vous remercier. Depuis que vous m'avez attribué ce prix, un gigantesque boucan s'est allumé et me réchauffe entièrement. Je ne parle pas de mon cercle familial qui m'a toujours entourée de son affection et soutenue. Mon mari, Richard, mes 3 filles, Sylvie, Aïcha, Leïla, mes petits-enfants, Raki, Serina, Maryse, Mounir, Youssouf et mes 2 arrière-petits-enfants qui ne perdent rien pour attendre. Bientôt, 2 pages obligatoires de Maryse Condé chaque jour. Je parle de ces inconnus qui ont lu mes livres ou qui m'ont rencontré lors de quelques colloques et qui m'ont assaillis d'emails, de coups de téléphone, de SMS pour me signifier leur bonheur de me voir choisi et récompensé. Je n'avais jamais rien connu de tel. Me voilà confortée dans la conviction que j'ai bien fait de suivre cette voie, celle de l'écriture. Et comme le dit le proverbe arabe, d'accrocher ma charrue à la plus haute étoile. J'ai failli ne jamais devenir un écrivain. Quand j'avais 10 ou 12 ans, une amie de ma mère, institutrice comme elle, m'a offert un livre pour mon anniversaire. Comme elle savait que je connaissais tous les Flaubert, Balzac, Guy de Maupassant, Apollinaire, Rimbaud possible et imaginable, elle tenait à me faire un cadeau original. L'auteur du livre s'appelait Émilie Brontë. L'ouvrage, Les hauts de Hurlevent. C'était la traduction en français de Wuthering Heights. Le soir venu, je me suis mise au lit avec ce livre. Et dès les premières pages, le miracle se produisit. Je fus transportée. Malgré moi, je riais ou j'éclatais en sanglots. De même que l'héroïne Cathy s'exclame « Je suis Heathcliff ». De même, j'étais sur le point de m'écrier « Je suis Emily Brontë ». On s'étonnera qu'une petite Guadeloupéenne puisse s'identifier si fortement, si parfaitement à une Anglaise, fille d'un pasteur protestant vivant sur les langues du Yorkshire. Mais c'est là la force et la magie de la littérature. Elle ne connaît pas de frontières. C'est un territoire de rêves, d'obsessions, de désirs plus ou moins réalisés qui rapproche les êtres à travers le temps et l'espace et les fait communier ensemble. C'est le même sentiment que je devais éprouver des années plus tard quand je me rendais au Japon. Les Japonais étaient très différents de moi par leur physique, leur éducation, leur mode de vie. Cependant, il suffisait que l'interprète s'installe et commence à lire la traduction de mes textes pour qu'une vibrante solidarité envahisse la pièce. Aujourd'hui, grâce à ce prix, j'ai l'impression bénéfique d'avoir relevé un triple défi. Maintenant, je voudrais partager symboliquement ce prix avec mon mari, Richard Philcox. Je sais, en cette période de libération et de combativité féminine, quand une femme parle de l'homme avec qui elle vit depuis un demi-siècle et se vante d'être bien avec lui, elle fait figure d'attardée ou, comme on dit, de ringarde. J'assume entièrement. J'ai d'excellentes raisons de partager symboliquement ce prix avec Richard. D'abord, il est le traducteur en anglais de la plupart de mes livres. Sans lui, mes ouvrages demeureraient confinés dans l'espace francophone. Ils ne seraient pas connus, lus, étudiés dans des pays comme l'Angleterre, l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Australie, l'Inde, par exemple. Ensuite, sur un plan plus personnel, ma longue carrière d'écrivain et de militante a été parcourue de périodes de découragement, de doute, de lassitude. Le plus dur, c'était les rentrées littéraires, quand les Français partageaient les prix entre les maisons d'édition qu'ils estiment importantes. Richard était toujours à côté de moi pour me prendre la main, m'aider à survivre, à vivre, tout simplement. C'est pourquoi, paraphrasant André Breton parlant d'Aimé Césaire qu'il venait de découvrir à Fort-de-France et disant « La parole d'Aimé Césaire belle comme l'oxygène naissant », je dirais « Richard fut mon oxygène constant ». Je voudrais enfin dédier mon prix à la Guadeloupe, ma petite terre natale tellement travestie, humiliée, méconnu, et à tous les Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui ont voté si massivement pour moi. Croyez-moi, ne prêtez pas attention aux dépliants touristiques qui promettent des vacances à bon marché dans les îles où on parle le français. Il n'est pas facile d'appartenir à cette partie du monde. On peut même se demander si la Guadeloupe est vraiment un pays. La loi en 1946, dite loi d'assimilation, initiée par le député de la Martinique Aimé Césaire, en a fait un département français d'outre-mer, DOM. Je ne suis pas de celles qui vilipendent Aimé Césaire pour son action politique. La beauté de sa poésie m'oblige à tout lui pardonner. Mais avouons que sur ce point, il s'est lourdement trompé. À cause de lui, Les habitants de la Guadeloupe sont devenus des Domiens. Ainsi, je suis une Domienne. Nous n'avons pas de langue. Le créole est un jargon longtemps interdit dans les écoles et il a fallu le courage de certains intellectuels pour qu'enfin soit reconnu un diplôme d'études créoles. Nous n'avons pas, dit-on, de créativité. Nous sommes soit les descendants des esclaves africains, soit les descendants des engagés indiens, soit les descendants des Français. Personne ne pense que nous ayons pu édifier une culture, une civilisation originale basée sur ces différents apports. Il n'y a pas de travail à la Guadeloupe. Le taux de chômage atteint des chiffres records. La population est obligée de s'expatrier, en France principalement. Mais on trouve des Guadeloupéens à travers le monde. Ceux qui restent au pays sont souvent réduits à se droguer ou à voler, et cette violence commence à se faire jour à travers les lignes des journaux français. J'appartiens à un groupe qui, horrifié par ces mots, a fondé un parti politique. Nous proposons un changement de statut, l'indépendance. Mais la majorité démotivée, n'ayant plus d'espoir en rien, ne nous suit pas et nous menons, je le crains, un combat d'arrière-garde. Aujourd'hui, la Guadeloupe est pratiquement un zombie. On ne parle d'elle qu'au moment des cyclones, de la route du Rhum et lorsqu'un chanteur populaire décide de se faire enterrer à Saint-Barthélemy, une île voisine. Je suis heureuse. Je suis fière, profondément fière, d'être celle qui a fait entendre sa voix, une voix qui, malgré ses malheurs, continue de dire non. Une voix qui reste forte, qui reste magique. Je vous remercie.
Et oui, c'est ici que prend fin cette édition spéciale, hommage à Maryse Condé. Cette émission est disponible sur notre site web popourichaud.com. Merci à tous nos collègues à Paris et nos médias partenaires. Merci à l'artiste Senaya, Montréal, DJ Devera pour la mise en onde. Ici Eric Kader, je vous souhaite une excellente semaine. Que la force soit avec vous. À dimanche prochain.
vivre, pas qu'à y s'entiver. On doit le proverbe qu'a dit, pas de tunisiel, sans nuage, c'est vrai. Vous savez ces yeux qui lâchent, si c'est ce qui me fait pas attraper, père, ou que vous êtes là.
Pas d'hiver en piti, sinon je sais que c'est fini, pas découragé en tombé, je ne vais pas mourir.
Pas prendre la peine pour tester, à partir de ces hommes qui domptaient, à que toujours exister, parce que c'est on est qu'à volonté, ton attitude.
Pas d'hiver en piti, sinon je sais que c'est fini.
Levez, levez, pour faire yoter nous là. Moi, levez, piti, mon maï.
Moi, tu fais tambour la cassonne.
Moi, levez, piti, piti.
Moi, tu fais tambour la cassonne.
Son à tambour la couleur vient de moi.
Moi, tu fais tambour la cassonne.
Son à tambour la couleur vient de moi.
Moi, tu fais tambour la cassonne.
C'est qu'on s'en fait bien, ah oui.
Moi, tu fais tambour la cassonne.
C'est qu'on s'en fait blanchante.
Moi, tu fais tambour la cassonne.
Moi, levez, foutez pas mal.
Moi, tu fais tambour la cassonne.
Couleur vient de moi. Pour la poule en veine,
moi.
Moi, les bébés ripénal.
Moi,
les bébés brutal, brutal.
Moi,
les bébés solides,
solides.
Oui, moi, les bébés rapides, rapides.
Moi,
les bébés brigands, brigands.
Moi,
les bébés aigris, aigris. C'était moi, les bébés caïdes, caïdes.
Moi,
les bébés méchants, méchants.
Moi,
les bébés équilibrés.
Moi,
tu fais ta boule à cassonner. Sois à ta boule
à cassonner.
Sois à ta boule à raisonner d'être moi.
Moi, tu fais ta boule à cassonner.
Moi, les bébés pas déballés au gré.
Moi, tu fais ta boule à cassonner.
Oui, moi, les bébés soudés, soudés.
Moi, tu fais ta boule à cassonner.
Ta boule à cogner, pas moi.
Moi, tu fais ta boule à cassonner.
Amadez ta boule à pour cogner, pas moi.
Moi, tu fais ta boule à cassonner.
Moi, les bébés aigris, aigris.
Moi, tu fais ta boule à cassonner.
Moi, les bébés bandés, pêlés, ok.
Moi, tu fais ta boule à
santé. Moi levé aigri aigri.
Moi
moi levé vicieux vicieux.
Moi
levé mauvais mauvais.
Moi
moi levé mauvais mauvais.
Moi
levé des riz pénal. Oui moi levé foutre pas mal.
Moi
c'était moi levé foutre pas mal.
Moi
levé